Pierre Mériot, Bertrand Mas, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur Libre à vous pour échanger sur les politiques logicielles libres de Grenoble et de Lyon, dont vous êtes respectivement élu au numérique. Alors pour commencer, alors une question d'usage, mais peut-être un peu décalée par rapport à d'habitude, parce qu'avant de vous présenter personnellement, j'aimerais bien que vous présentiez les collectivités que vous représentez. Alors Lyon et Grenoble sont des grandes villes, mais c'est peut-être intéressant de rappeler peut-être que quelques éléments factuels pour qu'on ait en tête de quoi on parle, et puis préciser à l'occasion peut-être le mandat que vous occupez respectivement dans ces collectivités. Bertrand, je vous propose de commencer.
Oui, très rapidement, moi je suis à Lyon, qui est une ville d'environ 520 000 habitants, qui nous classe troisième ville française, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je pourrais préciser juste ce qui concerne la collectivité, l'administration ville de Lyon, avec un grand chiffre, c'est qu'on a environ 7 000 ordinateurs pour l'usage des agents de la ville, environ 5 000 postes concernés par de la bureautique de façon régulière, puisque c'est pas mal de ça dont je vais parler aujourd'hui.
Parfait, merci beaucoup. Pierre ?
Oui, bonjour, Pierre Mériot, je suis donc adjoint au maire de Grenoble et en charge du personnel, de l'immobilier municipal, la stratégie numérique et de la présidence de la CAO. Alors Grenoble, c'est plus petit que Lyon, bien sûr. Nous sommes 165 000 Grenoblois actuellement, insérés dans une métropole qui, elle, comprend 450 000 habitants. Et au niveau des effectifs de la collectivité, on a 3 800 agents à la ville de Grenoble et 1 200 au CCAS. Et on a un parc d'ordinateurs qui doit atteindre les 2 500 PC actuellement entre ville et CCAS.
D'accord, merci pour ces précisions. Alors vous avez dit effectivement que vous faites partie d'une plus grande communauté d'agglomération. C'est également le cas de Lyon qui fait partie, voilà, il y a le Grand Lyon et je pense que Bertrand pourra revenir sur ce point. Je vais rappeler parce que je l'ai pas fait en introduction, mais Lyon et Grenoble, vous êtes déjà tous les deux intervenus dans le cadre de Libre à vous. Alors Grenoble, c'était Madame Compara qui avait présenté la collectivité en 2019, c'est l'émission 27. Et Lyon est intervenu avec le Grand Lyon dans l'émission 162, déjà pour parler en 2022, pour parler de ces politiques logicielles libres. Là, nous sommes en 2025. En plus, il y a eu des annonces récemment de deux collectivités. Donc c'est pour ça qu'on trouvait intéressant de vous proposer d'intervenir à nouveau. Je vous propose à présent peut-être, parce que c'est toujours bon de savoir qui parle, de nous donner un petit peu plus d'informations sur personnel, peut-être vos parcours, votre rapport à l'informatique, au logiciel libre. Qui se lance ? Eh ben, reprenons le même ordre, Bertrand, je vous propose de commencer.
Oui, moi initialement je viens pas du tout du monde du numérique, puisque je suis ingénieur dans le bâtiment dans lequel j'ai travaillé plusieurs années. Et donc, je me suis penché sur les problématiques numériques vraiment lorsque je suis devenu élu et donc adjoint au maire en charge de la politique du numérique. Peut-être en quelques mots, la façon dont j'ai abordé la question, je pense que je suis rentré par la porte de la sobriété numérique. Le début de mandat, c'était l'époque où le Chief Project avait publié son rapport « Déployer la sobriété numérique ». Et donc ensuite, j'ai tiré la ficelle en suivant les travaux de gens comme Gauthier Roussy, Aurore Stéphan, Cécile Viguier sur les data centers, etc. J'ai aussi pas mal tiré la ficelle de la souveraineté numérique, en suivant des personnes comme Ophélie Coelho, Tariq Sim, etc. Donc toutes les problématiques du droit extraterritorial américain, par exemple. Et puis sur la question du logiciel libre en particulier, alors j'ai été bien aiguillé par un autre élu de la ville de Lyon qui s'appelle Vincent Mabillot, qui est élu dans le 8e arrondissement de Lyon et qui est très engagé sur les questions logiciel libre. Voilà, et puis donc on s'est intéressé aussi à d'autres questions, évidemment, d'inclusion numérique, d'accessibilité, et qui nous a amené en début de mandat à élaborer un peu une feuille de route sur tous ces sujets-là, qu'on a appelé notre stratégie numérique, qui était aussi co-construite avec bon nombre d'agents de la ville de Lyon, avec évidemment des grandes lignes directrices impulsées par le politique. Et après, peut-être pour préciser quand même sur le mandat d'adjoint au numérique, en quoi ça peut consister au quotidien, ça va être orienter les choix matériels Donc, par exemple, la volonté de se tourner vers plus de matériel reconditionné ou la façon dont on se sépare de notre matériel en fin de vie. C'est évidemment orienter les choix logiciels. Donc, on est là pour parler de logiciels libres notamment. Veiller ensuite à ce que on respecte un certain nombre de cahiers des charges sur l'accessibilité numérique. C'est évidemment aussi prioriser au quotidien les projets informatiques puisque il y en a constamment beaucoup dans une grosse collectivité et avec quelques embouteillages. Donc, voilà, dans les très grandes lignes.
Merci, c'est toujours intéressant d'avoir ces perspectives et je trouve intéressant que vous fassiez le lien avec ces questions d'inclusivité, de numérique plus durable, parce que pour nous, les liens sont immenses avec le logiciel libre et c'est pour avancer de manière cohérente, il faut avancer sur ces chantiers en réfléchissant de manière transversale et en incluant le logiciel libre comme un des éléments de réponse, c'est pas le seul, mais un des éléments de réponse nécessaires pour une réponse on va dire cohérente à nouveau. Et c'est, je trouve toujours intéressant aussi de se dire que le logiciel libre n'est pas qu'un problème d'informaticien et d'informaticienne. Moi-même, je ne suis pas du tout informaticien, mais ça nous concerne presque d'autant plus puisqu'on a besoin de pouvoir faire confiance aux outils qu'on utilise et le logiciel libre est un levier de cette confiance. Pierre, qu'en est-il pour vous ?
Alors, comme Bertrand, je ne suis pas du tout un informaticien d'origine. Je suis inspecteur du travail de profession. Mon rapport à l'informatique, il l'était en tant qu'usager, à la fois professionnel et personnel. Et en tant qu'usager à titre professionnel, effectivement, j'avais eu à subir de nombreux déboires, comme beaucoup d'agents ou de salariés qui étaient confrontés au choix par leur employeur de logiciels privatisés, propriétaires, confectionnés par des grands groupes, qui répondaient absolument pas aux besoins qu'on avait en tant que professionnel. Donc, en tant qu'inspecteur du travail, je me suis investi avec des collègues dans un groupe de travail qui a essayé de convaincre notre organisation, le ministère du Travail, dans les années, où ça remonte aux années 90 par là, de la nécessité impérative de nous doter de logiciels correspondant à nos besoins. Et on a beaucoup travaillé, on a produit un cahier des charges, on a beaucoup discuté avec des experts du ministère, avec des SS2I, etc. Et au final, le ministère a fait un choix qui était orthogonal par rapport à ce qu'on conseillait, et on s'est encore retrouvé avec des logiciels vendus sur étagère, entre guillemets, et très mal adaptés par des grosses boîtes de l'informatique qui arrivent comme ça à générer des profits sans doute conséquents, mais du coup, quand on est utilisateur de ce genre de logiciel, on souffre beaucoup après. Ça, c'est mon rapport à l'informatique qui m'a amené à être en fait sensibilisé par ce biais à la logique des logiciels libres qui très souvent sont beaucoup plus conçus par des passionnés et en écoutant beaucoup plus les besoins des utilisateurs. Voilà. Après, en tant qu'élu, il se trouve que je suis élu depuis 2014 à Grenoble. Depuis 2020, ma délégation était concentrée sur la question du personnel et du dialogue social. Et puis en 2023, suite à une petite remodelage de notre exécutif, j'ai hérité en plus donc de la stratégie numérique et de l'immobilier municipal. Donc c'est à ce moment-là que j'ai dû vraiment me mettre dedans pour essayer de rattraper le temps perdu aussi, puisque il y avait quand même des choses qu'il fallait faire en urgence sur cette délégation qui avait été un petit peu délaissée sans doute. Et donc, j'ai saisi le sujet à travers la nécessité pour notre collectivité, comme pour toutes les grandes collectivités de France et de Navarre, de produire une délibération qui répondait à la loi REN, aux objectifs de la loi REN de 2021, je crois.
Réduction de l'empreinte environnementale du numérique, voilà, REN.
C'est ça, tout à fait. Qui est une des rares lois intelligente sortie dans cette législature. Je dis ça, vous savez qu'on n'est pas du tout proche du gouvernement, ni actuel, ni en 2021. Et néanmoins, je dois reconnaître que cette loi est intelligente, sans doute parce qu'elle a été faite dans un esprit assez transpartisan. Et pour affronter la question de l'empreinte du numérique qui est, comme chacun le sait, croissante, et qui prend des proportions très inquiétantes avec le développement de l'intelligence artificielle d'ailleurs, les grandes collectivités devaient produire une stratégie délibérée, assumée pour faire face à cette question qui est une question importante. Du coup, on devait la produire avant le 1er janvier 2025. Du coup, je me suis dit, pour saisir la question du numérique à Grenoble, qui avait déjà été abordée effectivement dans le cadre d'une délégation précédente par Laurence Compara, que vous avez citée, qui avait qui avait lancé une politique sur Grenoble, effectivement, en la matière. Je me suis dit que c'était une bonne occasion pour refonder, en fait, la politique du numérique à Grenoble. Donc, j'ai pas mal travaillé avec le renfort de quelques collègues intéressés et des échanges avec des associations locales qui travaillent sur la question, notamment la Turbine, qui est une SCOP, sur la question du logiciel libre et de façon plus générale de comment développer une stratégie numérique sobre et responsable, on va dire. Donc, j'ai fait adopter une délibération en septembre 2024 avec un plan d'action complet derrière, comportant une centaine d'actions bien identifiées avec 6 axes qu'on pourra développer si besoin. Mais l'un des axes est effectivement la question de la souveraineté et de l'indépendance et donc du recours pour ça au logiciel libre de façon préférentielle. Voilà.
Merci beaucoup. Je pense qu'avec vos deux présentations respectives, vous avez vraiment dressé un tableau intéressant et qui montre l'ampleur des enjeux, la diversité des enjeux. Et je pense que ça va effectivement, il y a beaucoup de sujets, on n'aura pas le temps de tous les aborder, mais on va essayer d'en creuser certains. Et on va parler maintenant de souveraineté numérique, parce que je disais qu'il y avait des actualités vous concernant. Et Lyon a publié en juin 2025, enfin du moins Lyon a annoncé renforcer sa souveraineté numérique. Alors je vais citer le communiqué sur le site de la ville. Pour ne plus être dépendante des solutions logicielles états-uniennes et acquérir une véritable souveraineté numérique, la ville de Lyon s'est engagée dans une transformation majeure de ses outils numériques. Alors cela s'est fait autour de, donc fin de la citation, cela s'est fait autour de deux projets, la création d'une suite collaborative libre et interopérable et le déploiement progressif de logiciels bureautiques libres. Et on pourra revenir ensuite sur ces deux projets. Mais déjà, j'aimerais bien peut-être que Bertrand, vous nous partagiez votre compréhension de la notion de souveraineté numérique. C'est vrai que c'est une notion qu'on entend souvent, qui semble grandement variée en fonction de qui parle, de quoi on parle. Et je trouve toujours intéressant aussi peut-être d'avoir cette vision de la part d'une collectivité, d'une grande collectivité, puisqu'on parle de Lyon, qui est quand même une commune, donc je crois, d'un peu plus d'un demi-million d'habitants et d'habitantes, et en plus dans le cadre d'une plus grande agglomération. Qu'est-ce qui a motivé cette annonce et qu'est-ce que pour vous la souveraineté numérique, Bertrand ?
Oui, effectivement, le terme il peut être compris de différentes façons, qui ne s'excluent pas les unes des autres d'ailleurs, mais pour moi, ça m'évoque plusieurs choses. D'une part, le fait de ne pas être client captif de tel ou tel logiciel ou de tel et tel éditeur. C'est vrai que certains outils propriétaires sont conçus pour qu'il soit très compliqué de s'en extraire. Et nous, en l'occurrence, on s'est attaqué au sujet Microsoft qui, avec ses solutions comme Microsoft 365, enferme de plus en plus leurs clients avec des solutions de plus en plus intégrées, etc., qui font qu'ensuite, les clients que nous sommes sont, par exemple, à la merci des hausses de prix soudaines et parfois déraisonnables. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, ça peut être l'aspect qui consiste à privilégier une économie locale, du moins nationale à minima, mais c'est vrai qu'on dans les solutions qu'on développe pour s'extraire de la bureautique Microsoft, on a eu essentiellement recours à des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à hauteur de 50% des dépenses, et je dirais 100% des dépenses sur le territoire national, pour des entreprises nationales. Après, il y a évidemment aussi l'aspect souveraineté des données. Je dirais que le schéma le pire, ce serait les solutions cloud qui sont hébergées chez un acteur états-unien, par exemple, sur du logiciel propriétaire dont on ne maîtrise pas toutes les fonctionnalités, tous les aspects, les éventuels détournements qui peuvent être faits de notre donnée. Le modèle inverse, ce serait, je dirais, la solution sur votre ordinateur, donc pas sur des serveurs du temps, d'un éditeur français avec du logiciel libre, etc. Donc, après, c'est vrai qu'il y a aussi différents degrés de souveraineté. À la ville de Lyon, on ne revendique pas d'être parfaitement souverain sur nos outils informatiques. L'idée, c'est plutôt d'être sur une trajectoire, je dirais. Voilà, mais en tout cas, sur ce dernier volet, je dirais souveraineté au sens de maîtrise de nos données, qui ne soit pas soumise à une législation étrangère. Voilà, essentiellement.
Très bien. Et ça m'évoque, alors, la Cour des comptes a récemment publié un rapport alors, qui est plus tourné vers les administrations centrales, mais qui est très intéressant parce qu'il évoque beaucoup le logiciel libre, mais qui rejoint, en fait, qui pose une définition qui rejoint vraiment la vôtre, c'est-à-dire la maîtrise effectivement de la donnée, de la dépendance à des législations étrangères, etc. Merci beaucoup pour cette définition. Pierre, est-ce que vous voulez compléter, apporter votre vision du sujet?
La vision, elle est conjointe à celle que vient d'exprimer Bertrand, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'il y a des efforts de plus en plus importants des géants du numérique, de ce qu'on peut appeler les GAFAM, pour arriver à capter le maximum de ressources. Et pour ça, ils utilisent des arguments technologiques. On vient d'avoir la démonstration éclatante avec l'obsolescence programmée de Windows 10. Et donc, et le passage obligé, quand on est encore sous Windows, ce qui est là, c'est notre cas pour une bonne partie de notre parc à Grenoble, puisque si on a réussi à basculer en système d'exploitation libre en Linux, les 1600 PC qu'on a mis en dotation dans les écoles, dans les bibliothèques et dans les maisons des habitants, qui fonctionne entièrement en logiciel libre. C'est pas encore le cas, hélas, pour nos PC des services, qui sont services administratifs de la ville, où on a un système un peu mixte, où on a basculé en bureautique libre, avec LibreOffice, mais on n'a pas encore fait le pas de basculer en système d'exploitation libre. Parce que ça exige des investissements en temps, et essentiellement en temps d'abord de formation, de développement, de conviction aussi, parce que c'est un travail hein, de conviction. Et là, on a un frein interne qu'il faut ne pas cacher, qui est que on a un système de mutualisation de notre système, de notre service informatique et numérique avec la métropole de Grenoble. Et il se trouve que la métropole de Grenoble ne porte pas tout à fait les mêmes orientations fortes que nous en matière de choix vers le logiciel libre. Du coup, ça rend les choses très compliquées puisque ce service commun étant géré de façon commune et piloté beaucoup par la métropole qui l'héberge, on a des difficultés à faire entendre la nécessité de faire des choix décisif en la matière. Donc, c'est une question qui se reposera au prochain mandat, très certainement. Mais oui, la question de la souveraineté numérique à travers l'utilisation préférentielle de logiciels libres devient capitale maintenant, je pense, pour la sphère publique en général, mais pour les collectivités tout particulièrement, parce que d'une part, il y a la question de la maîtrise de nos données qui devient cruciale, mais aussi des coûts. Puisque chacun sait que quand on regarde les coûts d'utilisation croissants des logiciels privés, comme le disait Bertrand, avec un système de fermeture successive de leurs approches qui nous rend définitivement prisonniers, en fait, c'est ça leur démarche, versus le monde du libre qui, au contraire, offre des opportunités de faire d'autres choix et de les consolider petit à petit en dialogue avec un monde qui est beaucoup basé sur la coopération entre des acteurs de niveaux différents. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de sortir d'une logique où, sous couvert de celui qui paie commande, en réalité, c'est pas comme ça que ça marche, c'est celui qui est obligé de payer, qui est obligé de passer sous les fourches codines de fabricants de logiciels qui sont, comme je le disais, en tout cas comme moi je l'ai vécu très fortement dans ma vie professionnelle, subissent en réalité des choix qui sont pris très très loin de chez nous et qui ne respectent pas vraiment les besoins des habitants en fait. Et quand on a un service public local, on est d'abord centré sur les besoins des habitants, ce qui est normal. Voilà, donc ça c'est un motif essentiel pour moi de recourir de façon préférentielle au logiciel libre.
Eh ben écoutez, ça me paraît très clair. J'aime bien ce que vous dites qui paie, parce que c'est vrai que finalement que le logiciel libre, c'est qui paie contribue, et notamment quand on voit l'intérêt pour la puissance publique d'investir, de payer pour que justement renforcer les logiciels libres qui vont pouvoir servir à d'autres administrations, d'autres collectivités qui n'ont pas les forcément les mêmes moyens et puis, bien sûr, à l'ensemble des usagers et des usagères. Moi, j'aimais bien beaucoup le mot aussi de Bertrand, qui est la trajectoire, et je pense que c'est important d'avoir la lucidité là, voilà, que vous avez évoqué, notamment sur les systèmes d'exploitation. C'est compliqué de migrer dessus, mais il faut déjà avoir conscience de cette difficulté, la nommer, la réfléchir, et c'est comme ça aussi qu'on peut avoir et mener une trajectoire, prendre une direction qui soit pertinente. Et vous avez évoqué les postes de travail. Alors nous, à l'April, on est convaincus de la nécessité, enfin de l'importance d'engager une transition, parce que c'est un terme qui est aussi assez à la mode, mais sur les postes de travail, parce que c'est l'outil principal de beaucoup de fonctionnaires notamment. Et je pense que ça va rejoindre justement les deux projets, et j'imagine la motivation des deux projets qui ont été annoncés par Lyon dans le cadre de son communiqué de juin. Et donc je rappelle la création d'une suite collaborative libre et interopérable et le déploiement progressif de logiciels bureautiques libres. Alors on voit que les deux projets a priori se répondent. Est-ce que Bertrand Mas, donc vous êtes élu à Lyon, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le pourquoi, enfin voilà, qu'est-ce qui a conduit à choisir ces deux projets, à les mettre en avant, peut-être voilà un état des lieux de votre situation actuelle, puisque effectivement Pierre l'a partagé pour Grenoble, ça peut être intéressant aussi de voir où Lyon en est au moment où vous vous engagez ces projets-là, mais je vous laisse la parole.
Oui, eh bien, en fait, ce qui nous a amené à ce choix-là, c'est ce que, d'une certaine façon, vous venez de dire, c'est-à-dire que nous voulions nous engager pour plus de souveraineté numérique et plus de logiciels libres, et il me semblait évident que la première étape à franchir, c'était celle de la bureautique et du poste de travail, puisque c'est l'outil que tous les agents vont ouvrir à peine arrivés le matin au travail, l'outil certainement le plus utilisé, l'outil par lequel transite une quantité très importante de données, potentiellement sensibles, etc. Donc c'est un petit peu le nez au milieu de la figure, quoi. Donc ça me semblait évident de commencer par ça, même si c'est peut-être et de ce fait-là, c'est peut-être aussi la brique la plus compliquée à engager, quoique, mais voilà, donc c'est vraiment ce qui nous a mené à engager ce travail-là. Je dois dire que c'est un travail qu'on fait en collaboration avec la métropole de Lyon et le CITIV, qui est un syndicat intercommunal qui fournit des solutions informatiques à un certain nombre de villes de la métropole, pas que de la métropole d'ailleurs, mais en tout cas de la région lyonnaise.
Je me permets de dire qu'effectivement le CITIV est connu pour avoir une vraie action sur le logiciel libre. Ils ont notamment eu le label territoire numérique libre, je crois niveau 4 voire 5. J'ai plus en tête exactement leur niveau, mais voilà, vous mentionnez le CITIV et on va les saluer pour leur travail sur le logiciel libre.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs même qui nous a permis de déclencher nos projets. C'est plutôt un appel du pied du CITIV qui comptait répondre à un appel à projet de l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui nous a permis de bénéficier de 2 millions d'euros de subventions en début de projet, ce qui nous a évidemment donné un gros coup de pouce. Alors, du coup, en quoi ça consiste? On a créé effectivement une suite collaborative. L'idée, c'était un petit peu de créer un équivalent plus ou moins de Microsoft Teams, puisque d'ailleurs je l'ai pas formulé comme ça aussi, mais notre ambition c'était de ne pas aller vers Microsoft 365, vous voyez, de ne pas franchir cette marche supplémentaire, je dirais, dans la dépendance aux outils Microsoft, qui vont plus loin dans la non-souveraineté, du fait que ce soit des modèles cloud qui coûtent beaucoup plus cher que les solutions qu'on connaissait précédemment, etc. etc. Et donc, du coup, cette suite collaborative, elle contient quoi? Elle contient un Nextcloud, qui est un outil qui permet de partager des fichiers entre agents de la collectivité. Nextcloud qui est associé à OmniOffice, donc un outil plutôt de bureautique avec du traitement de texte, du tableur, des présentations, etc. Donc, Nextcloud plus OmniOffice permet de faire des documents sur lesquels on peut écrire à plusieurs mains, si je puis dire. Un outil également de vidéo, donc qui est basé sur le logiciel libre Jitsi. Et donc, et là, on est en train de mettre en place un outil aussi de discussion instantanée, donc qui sera basé sur Watcha, lui-même basé, je crois, sur Matrix. Voilà, donc je ne suis pas moi-même un grand spécialiste des logiciels et des briques logiciels libres, mais en tout cas, ça parlera aux connaisseurs. Et donc, le tout, je dirais, packagé un petit peu dans un, voilà, pour que ce soit une connexion unique, et ce qui permet de partager facilement des documents entre agents de la collectivité, entre agents de nos trois collectivités en réalité. Voilà. Donc, ça, c'est l'aspect suite collaboratif qu'on a mis à disposition déjà depuis, je dirais, deux ans aux agents de la ville. Et en parallèle, il y a aussi l'idée de remplacer les outils Microsoft sur le poste de travail, donc vraiment le Word, Excel, PowerPoint qui étaient installés sur le poste de travail, de les remplacer par les outils OnlyOffice. Ça, c'est notre première étape. Après, on passera aussi au mail, remplacer Microsoft Outlook. En l'occurrence, le choix a été fait d'aller vers Zimbra. Et puis, une troisième étape, mais là, qui est plus lointaine et on est encore en train d'y travailler, qui sera de remplacer Skype, qui est notre outil de téléphonie. Et donc, on est à la recherche de solutions de téléphonie libre. Voilà, et donc là, on est vraiment... Alors, la suite collaborative, elle a été proposée aux agents depuis 2 ans, comme je disais. C'était un outil en plus, hein, en fait, au début, puisque c'était... Ça ne remplaçait rien, ça venait en complément, ce qui permettait aux agents de se familiariser déjà avec les outils OnlyOffice. Puis là, on est dans le cours de remplacement de Microsoft Office sur les postes de travail, à peu près la moitié des agents qui ont migré. Que dire sur le choix des logiciels en tant que tel, OnlyOffice, ça a vraiment été guidé par la grande ressemblance en fait avec les outils Microsoft et la compatibilité avec les formats Microsoft qui permettait que le changement soit pratiquement indolore, même si j'ai bien conscience que c'est peut-être pas le modèle le plus puriste de logiciel libre, hein, au sens où c'est pas vraiment une communauté qui est derrière, mais bien une société privée. Mais voilà, en tout cas, c'est déjà une première étape qui permet de s'éloigner des outils Microsoft. Je précise aussi qu'on a pris le temps de le faire, et on prend le temps de le faire. Hein. L'idée, ce n'était pas de se précipiter, mais bien de faire en sorte que cette bascule soit puisse être définitive, hein, que ça se passe de bonne façon, que ce soit bien accepté. Et donc, on a notamment accompagné ça d'une part de formation. Tous les agents qui basculent disposent d'une journée de formation sur les outils. Alors ça peut être un peu moins s'ils le souhaitent, mais voilà. Et puis par ailleurs, on a aussi mis en place un support, pour le dire simplement, je dirais une hotline qui permet aux agents d'aller chercher de l'aide s'ils en ont besoin une fois qu'ils ont changé d'outil. Et autre élément important aussi dans la bascule, on a beaucoup travaillé à trouver par exemple les équivalents des macros Excel. Donc il y a des gens qui sont allés enquêter dans les services, dans les différents fichiers qui étaient utilisés par les agents, qu'est-ce qui pourrait être un point bloquant et quelle solution équivalente, quelle formule équivalente on peut trouver sur les nouveaux outils, là encore pour pas que les agents soient démunis une fois qu'on leur a changé d'outil.
D'accord, merci pour cet exposé très complet et qui en fait répond à une question un peu générale que je voulais vous poser ensuite, mais qui en fait vous avez répondu par des exemples très concrets. C'est en somme, et peut-être que Pierre voudra rebondir aussi pour nous dire à Grenoble s'il y a des projets ici en cours et quel choix vous avez fait, même si vous en avez déjà un peu parlé avant. Mais moi, la question que je voulais me poser et à laquelle je pense que vous avez déjà apporté énormément d'éléments de réponse, c'est... fondamentalement, dans une collectivité, comment on définit ses besoins et, le cas échéant, comment on décide de recourir à une solution informatique, parce que parfois, en fait, on peut aussi se passer d'informatique et cela nécessite la définition des besoins. Et je pense qu'en fait, ça, c'est essentiel, me semble-t-il, pour une collectivité, mais en fait pour tout le monde, mais pour une collectivité en particulier, puisqu'elle manipule du denier public. Et puis, comment on décide d'intégrer, de prendre en compte le logiciel libre dans ce processus. Alors, la question est très très large. On peut parler de mutualisation, de questions de procuration, c'est-à-dire de marché public. Alors, est-ce qu'on va faire appel à un prestataire? Est-ce qu'on va prendre en charge en interne des compétences pour pouvoir maîtriser en interne les logiciels? C'est pas les mêmes choix. Il n'y en a pas forcément un qui est meilleur que l'autre. Il y a du bon et du moins bon dans les deux cas. Voilà. Donc à Lyon, vous nous avez précisé tout un ensemble de logiciels et d'ailleurs énormément de références ont été partagées pendant notre échange. On listera comme d'habitude sur le site de l'émission. Voilà, vous avez parlé du Shift Project en début d'échange, vous avez nommé un certain nombre de logiciels, on les listera. Pierre, est-ce que vous voulez rebondir sur ce sujet de la définition des besoins et peut-être si vous voulez parler d'un projet logiciel, projet de SIEM d'information que vous êtes en train de mener?
Oui, alors effectivement, je l'abordais tout à l'heure, l'un des préalables, et vous avez raison, c'est de définir le besoin en tant que service public. Déjà, nous, on a affirmé à travers la délibération numérique sobre et responsable que j'ai fait adopter en septembre 24, donc, le principe systématique d'un double accès pour les citoyens. C'est-à-dire que l'une des façons de ne pas accroître la fracture numérique, les fractures numériques, en fait, il y en a plusieurs sortes, c'est de permettre aux citoyens qui sont le plus éloignés du numérique, d'avoir toujours un accès physique pour gérer leurs problèmes, leurs dossiers, leurs besoins. Donc ça, on l'a affirmé à l'occasion de notre délibération sur le numérique. On garde toujours un accès physique aux services publics. Dans tous les services de la ville, tous les citoyens qui le souhaitent peuvent avoir accès à un agent, un vrai humain et non pas un robot. Donc ça, c'est un préalable que je trouve important de rappeler. Après, on s'est aussi attelé à rendre nos outils numériques, parce qu'on en utilise beaucoup quand même, évidemment. On développe des services numériques de plus en plus importants, comme beaucoup de collectivités, pour faciliter les interfaces et les relations avec les citoyens et les usagers. Et pour ça, on fait très attention de développer à la fois des systèmes qui soient sobres en ressources, le plus sobres en ressources possible, et en même temps qui se mettent à la place du citoyen, de l'usager, avec une démarche qui intègre la question de l'accessibilité pour tous, évidemment. On essaye aussi de prendre en compte le langage FALC, facile à lire et à comprendre, pour que chacun puisse arriver à comprendre rapidement quand il arrive sur un site de la collectivité ou qu'il se branche avec son smartphone si besoin. Comment est-ce qu'il peut utiliser les outils numériques qu'on met à disposition pour accéder à une information, déposer une requête, déposer une plainte, etc. Donc ça, cette démarche, elle est engagée depuis plusieurs années maintenant et elle commence à porter ses fruits puisque on observe par exemple une décroissance de plus en plus importante du nombre de plaintes ou de demandes qu'on reçoit par courrier papier. Ça devient effectivement beaucoup moins important, et même par l'outil classique du mail, les points de contact par mail qu'on a sur le site, etc. Et les gens reviennent en fait se connectent via un site internet ou une appli si besoin. Les applis, c'est pas encore assez développé, mais c'est le futur évidemment, puisque chacun sait que maintenant les gens utilisent beaucoup plus, surtout les jeunes, beaucoup plus les smartphones que les PC pour se connecter au numérique. Donc il faut qu'on accompagne cette bascule et qu'on soit capable de produire des services numériques qui soient à la hauteur de ce qu'attendent maintenant les usagers, qui comprennent mal qu'ils peuvent commander une pizza livrable dans des conditions sociales très discutables d'ailleurs, en trois clics, mais ils comprennent pas que quand ils ont besoin d'un service public local ou d'un accès à un service public national, puisque les collectivités locales sont aussi les opérateurs de l'État, par exemple pour la délivrance de cartes d'identité, etc., qu'ils n'aient pas la même simplicité. Alors c'est vrai que on n'a pas recours à une livraison de carte d'identité aussi souvent que à la restauration, évidemment.
Heureusement.
Et que par ailleurs ça nécessite de sécuriser tout ça. Mais en tout cas, le courant est là et il faut qu'on tienne compte de cette demande sociale. Après, effectivement, il y a des choix d'organisation de collectivités qui peuvent être différents. C'est ce que je disais tout à l'heure, du fait que nous avons un service numérique mutualisé avec la métropole, qui n'a pas tout à fait les mêmes orientations de nous en matière de logiciel libre, comme je le précisais, la métropole de Grenoble. Ça rend les choses plus compliquées, puisque la culture, entre guillemets, de ce service mutualisé est plus orienté vers le recours à des prestataires externes, des marchés publics qu'on passe en sous-traitance à des SS2I, etc., qui certes sont utiles parce qu'elles ont une compétence, c'est indéniable, mais pour moi, le modèle idéal n'est pas tout à fait celui-là. Si j'avais les mains entièrement libres, je préférerais embaucher en direct des informaticiens qui sont bien câblés et qui comprennent bien la priorité donnée au logiciel libre pour qu'ils aillent eux-mêmes produire du code à partir de ce qui est disponible dans la bibliothèque mondiale des logiciels libres. Il y a beaucoup de choses, évidemment, pour adapter ces logiciels aux besoins de la collectivité, quitte à avoir recours, quand on a affaire à des gros logiciels, évidemment qu'il faut parfois recourir à des, y compris des sociétés privées qui travaillent sur le logiciel libre. Moi, j'ai pas de difficulté du tout avec ça. Ce qu'on est capable de faire, évidemment, et j'ai bien entendu ce que fait Lyon, ce que je trouve très intéressant. Mais il faut disposer d'une force de frappe interne capable de faire ces adaptations. Et ça, c'est un choix de structuration du service qui détermine en fait la façon dont après on va être capable d'avancer. Voilà, ça c'est un enjeu de débat. Je dis ça pour les futurs élus des municipales 2026 à venir. Il faut y penser dès le début du mandat pour se donner une capacité, une force d'action bien supérieure, quitte à aller contre la logique néolibérale qu'on voit un peu partout, qui est de dire qu'il faut baisser les coûts de fonctionnement et les bases salariales des services publics. En fait, c'est contre-intuitif de dire ça quand on veut développer une action publique locale au plus près des citoyens. Il est parfois très utile de déployer au contraire des services publics renforcés et d'accepter de voir sa courbe de masse salariale un peu augmenter, parce que derrière, le rendement obtenu à l'euro d'impôt investi peut être bien supérieur.
C'est de l'investissement, en fait. On achète de la maîtrise, et on achète de la souveraineté, pour reprendre ce terme. Avant qu'on avance, parce que le Grenoble aussi a fait une annonce, et vous parliez voilà de votre lien aux habitants-habitantes, je ne sais pas si Bertrand, vous vouliez rebondir sur cette notion de définition et des besoins, et de comment vous intégrez le logiciel dans ce processus, ou si vous considérez que vous y avez déjà répondu
Peut-être juste des petits compléments, parce qu'à Lyon, nous sommes dans la même situation, on n'a pas de développeur en interne, donc on ne fabrique pas nos logiciels, on est obligé de les acheter, et donc pour cela, on est soumis aux règles de la commande publique, et donc on est supposé faire des cahiers des charges et ensuite lancer des appels d'offres là-dessus. En réalité, souvent, on passe, comme d'autres collectivités, nos achats par des centrales d'achat qui permettent plus ou moins de contourner les appels d'offres. Hein. La grosse centrale d'achat publique s'appelle l'UGAP. Donc là, petit à petit, on pousse à ce que ces grosses centrales d'achat référencent des solutions qui soient conformes à nos exigences. Après, sur une particularité du logiciel libre, qui n'est pas forcément très connu, mais que je trouve intéressante pour la commande publique, qui permet aussi de garder une certaine maîtrise, c'est que dans le cadre du logiciel libre, on peut choisir son logiciel, sa solution libre, et mettre en concurrence des intégrateurs. Voilà, on met en concurrence les entreprises sur la façon dont elles vont mettre en place le logiciel que l'on aura choisi dans nos systèmes d'information.
Absolument, et je me permets de rappeler que c'est pas juste vous qui le dites, c'est le Conseil d'État qui l'a affirmé en 2011 dans un arrêt qui s'appelle Lili, et donc on peut choisir un logiciel libre de la manière qu'on va choisir une fourniture, et après on fait un appel d'offres sur le logiciel libre qu'on a choisi. Mais c'est bien le Conseil d'État qui a affirmé ce que vous venez de dire, et excusez-moi de vous avoir coupé.
Ouais, non, mais je pense que c'est effectivement important de le dire bien sûr, parce que on entend souvent comme opposition au logiciel libre le fait que quelque part on n'aurait pas le choix parce que les règles de la commande publique font que voilà, on est obligé de mettre en concurrence les logiciels libres avec les logiciels propriétaires. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et après, sur la façon de choisir un logiciel, c'est un peu le croisement de deux logiques. On va avoir le besoin métier. Voilà, les gens qui ont besoin d'exercer leur métier avec un logiciel et qui ont un certain nombre de besoins techniques, qu'il faut croiser avec les exigences de notre stratégie numérique. Alors parfois on n'arrive pas à s'entendre complètement, mais donc effectivement, de plus en plus, nous on va exiger que les logiciels métiers qu'on va mettre en place soient effectivement compatibles avec les logiciels libres qu'on a choisis par ailleurs, la bureautique libre en e-office. On va s'intéresser à la localisation de l'hébergement du logiciel, on va s'assurer que il n'y a pas des bases de données Oracle qui tournent derrière par exemple. On va s'assurer que ces logiciels soient conformes au RGAA, donc le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Voilà. Et après, moi, ce que j'observe, c'est que si, in fine, on veut aussi un logiciel libre, quelque part, il faut l'imposer, quoi. Enfin, c'est-à-dire que si on s'en remet à juste faire une étude de marché, étudier de façon équivalente les solutions libres ou non libres, bon, il est possible que les services s'orientent naturellement vers une solution qui ne soit pas le logiciel libre. Donc, je pense que là-dessus, on n'a parfois pas d'autre choix que de l'imposer lorsque le marché le permet, effectivement, puisque parfois, sur des besoins spécifiques, il n'y a pas forcément de logiciels libres qui ont été développés sur tel ou tel besoin. Et voilà.
Oui, il faut une politique volontariste, et c'est ce qu'on dit au niveau de l'État. Tant qu'il n'y aura pas une vraie stratégie politique, on ne pourra pas renverser, on va dire, les rapports de force qui sont quand même plutôt favorables à une certaine domination des big tech, des GAFAM, on peut les appeler un peu comme on veut. Je vois l'heure qui avance, alors même si on n'est pas en direct, on est en train de préenregistrer le 25 novembre, je sais que Pierre a une contrainte qui arrive, mais je voulais quand même vous permettre, Pierre, de parler du kit d'accès logiciel libre mis en place par Grenoble récemment. Alors, je vais lire le site, le Ville de Grenoble propose ce kit d'accès au logiciel libre pédagogique et facile à utiliser pour permettre à chacun et chacune d'échapper à l'emprise technique des GAFAM en utilisant des logiciels et services libres, sans traçage, sans utilisation des données personnelles, pour les ordinateurs comme pour les smartphones. En fait, ça fait écho à des choses que vous avez évoquées juste avant, mais je vous laisse nous présenter peut-être ce kit d'accès logiciel libre.
Oui, en fait, ça, c'est l'un des éléments du plan d'action que j'ai fait voter en septembre 2024, donc qui était de constater que quand on est un usager, un citoyen lambda, et qu'on cherche des solutions pour gérer son accès au numérique, ben, si on veut pas tomber, et je dois dire que là, on est tombé, Windows nous donne beaucoup de publicité, forcément, avec cette histoire d'obsolescence programmée du logiciel Windows 10 pour des ordinateurs qui ne sont pas tous extrêmement vieux. Ben, la démarche, en fait, elle était simple. C'est suite à des échanges avec les assos qui travaillent, avec les associations qui travaillent sur le logiciel libre à Grenoble. Je me suis rendu compte qu'il y avait un travail intéressant qui était fait par le milieu local, mais qui n'était pas forcément facile à trouver comme ressources, informations, etc. Et ce qui était un peu un paradoxe pour moi, puisque c'est quand même, quand on travaille sur ce sujet-là, c'est très important d'arriver à mailler mieux. Donc, à partir de cette réflexion, je me suis dit, bah tiens, il faudrait qu'on puisse leur donner un coup de main pour mettre en visibilité ce que le milieu local fait déjà. La communauté du libre très dynamique ici, mais comme dans beaucoup d'endroits. Hein. Et donc, en réfléchissant avec en particulier une agente de la ville qui est intéressée par le sujet, j'ai dit, bah, en tant que collectivité, ça me paraît légitime qu'on rende plus accessible à un maximum de citoyens, citoyennes de Grenoble, les ressources locales en matière de logiciels libres, d'autant plus que bon, bah, à titre personnel, j'ai un PC qui doit avoir 13 ans maintenant et qui fonctionne très bien avec un logiciel libre, avec un système Linux, alors que il ramait terriblement avec la version de Windows que j'avais à l'époque. Je sais même plus quelle année c'était. Mais voilà, j'ai fait ce choix-là à titre personnel depuis longtemps. Je suis très satisfait et je me suis dit, il faut qu'on donne la chance à tout le monde de pouvoir éviter de payer des licences, éviter de devoir changer son matériel de façon imposée, alors que l'ordinateur fonctionne encore sur un plan physique. C'est une démarche vraiment toute pragmatique, on va dire, et quand on est écologiste, évidemment que la première des choses à faire, c'est d'éviter de devoir racheter du matériel dont on sait que l'empreinte numérique, l'empreinte carbone du numérique, en premier, c'est le matériel, hein. C'est pas tellement éteignez votre Wi-Fi la nuit, etc. Ok, ça c'est bien gentil, mais c'est pas ça l'empreinte majeure du numérique. C'est le fait d'être obligé d'acheter, de racheter un PC alors que celui qu'on a semble bien marcher, à l'exception du logiciel obèse entre guillemets qui en gêne en fait le fonctionnement au bout d'un certain temps parce que c'est conçu comme ça. Donc voilà, c'est parti de cette logique-là. Du coup, le guide qu'on a édité en version papier accessible uniquement pour des raisons de coût et d'économie, on le distribue dans les maisons des habitants qui sont sur Grenoble, comme ça existe dans beaucoup d'endroits. Dans chacun de nos secteurs géographiques de la ville, on a des maisons des habitants qui sont des micro-services publics locaux, des micro-mairies à disposition des habitants. Et en fait, on fait distribuer le guide papier. On a mis des affiches, etc. Et on fait distribuer le guide papier par nos médiateurs numériques, c'est-à-dire des agents formés qui sont là pour aider les citoyens et citoyennes à se débrouiller avec le numérique. On le met pas en libre distribution papier parce que c'est un guide qui comporte une vingtaine de pages et ça serait un peu du gâchis, sans doute. Et puis, il est en libre accès, évidemment, sur le site internet de la ville, en version numérique. Voilà. Donc, les premiers retours qu'on a sont plutôt très positifs du côté du milieu associatif et des militants du livre locaux qui ont bien apprécié qu'on les mette plus en visibilité à travers cet outil-là. Et les médiateurs numériques, effectivement, nous disent que ça leur sert effectivement d'outils pour accrocher les usagers et les usagères et leur proposer de les aider à faire une bascule vers le monde du livre qui permet aux gens de continuer à avoir des accès au numérique, mais souvent à moindre coût et avec des facilités d'accès, en fait, une fois qu'on a dépassé la phase initiale. Voilà.
Question rapide, vous savez sous quelle licence est publié ce guide sur votre site? Sinon, je chercherai, je le mettrai en lien sur l'émission.
Non, je dois dire que j'ai pas ce niveau de détail, mais il est accessible directement. Vous tapez, vous allez sur le site de Grenoble, vous tapez logiciel libre et vous devriez voir. On a une barre de recherche qui est assez bien faite,
d'accord,
et qui permet d'accéder.
On vous invite à explorer, on mettra le lien aussi sur le site. Merci beaucoup Pierre Mellon. Moi, je veux juste souligner un aspect qui est très important pour nous et qui est, je trouve très intéressant cette démarche, c'est la notion d'accompagnement. Il ne suffit pas juste de lancer du logiciel libre aux usagers et aux usagères, il faut les accompagner, les aider à franchir la transition. C'est moins difficile qu'on ne le pense, mais ce n'est pas si simple non plus et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir ce lien humain pour être accompagné. Je crois que vous deviez partir. Si vous voulez rajouter un mot de la fin, je vous en prie. Sinon, je vous souhaite une très bonne suite de journée. Comme vous le souhaitez, Pierre.
Le mot de la fin, ça peut être simplement de dire que, effectivement, vous l'avez cité au départ, il y a des rapports qui s'entassent au Sénat, à la Cour des comptes, etc. Quand on examine de façon rationnelle le monde du numérique, on s'aperçoit très vite que, en fait, toutes les administrations publiques devraient déjà avoir basculé, à l'exemple de la Gendarmerie nationale par exemple, devraient déjà avoir basculé dans un monde du logiciel entièrement libre, parce que c'est une solution souveraine, c'est une solution qui est maintenant sûre, c'est une solution qui permet de tenir compte des besoins des usagers, et c'est une solution bien plus économe en deniers publics. Donc en fait, si on avait un gouvernement déterminé à agir vite et fort sur le sujet, ça serait simple, il suffirait de prendre une position pour dire et imposer à l'État d'abord et subventionner les collectivités aussi pour ça, pour qu'on fasse cette bascule vers le logiciel libre de façon beaucoup plus ordonnancée, conjointe, commune, et on aurait une force d'impact bien supérieure. Je regrette qu'on n'en soit pas encore là, j'espère que ça va advenir, et je dois dire que les efforts que font les GAFAM pour se rendre absolument indispensables avec des prix croissants vont peut-être nous aider à faire enfin cette bascule. Peut-être que la contrainte budgétaire va aider à franchir le pas. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour les années à venir, parce que vraiment, pour moi, il n'y a aucune bonne raison actuellement de rester sous l'emprise de logiciels propriétaires qui nous emprisonnent de plus en plus, comme le disait Bertrand tout à l'heure, c'est tout à fait le bon mot, dans des configurations qui nous rendent de moins en moins libres de nos choix et qui nous pompent des ressources à la fois en termes d'argent public, mais aussi, et c'est une priorité pour nous, des ressources en carbone, en eau, etc. Puisque l'un des aspects qu'on pourrait discuter aussi, c'est l'invasion de l'intelligence artificielle dans tout ce qu'on est amené à utiliser maintenant, qui est aussi un vrai problème. Alors, on se met à utiliser l'intelligence artificielle pour en substituer à n'importe quel moteur de recherche, ce qui est absolument stupide. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est une des évolutions dont il faudra discuter sans doute un jour. Merci en tout cas.
Merci à vous et pour cette, je ne changerai pas une virgule à toute la synthèse que vous avez faite sur l'importance d'avancer avec résolution, avec détermination plutôt, vers le logiciel libre. Je vous souhaite une très bonne suite de journée. Merci encore d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous sur les politiques logiciels libres. Je rappelle, vous êtes Pierre Mériot, vous êtes élu au conseil municipal de Grenoble et vous avez notamment dans votre portefeuille, enfin dans votre mandat, le sujet de la stratégie numérique. Au revoir Pierre et merci encore.
Au revoir, bonne journée.
Alors Bertrand, je ne vais pas vous garder encore des dizaines de minutes, mais j'aimerais quand même vous entendre, si vous en avez le temps, sur ce que fait Lyon aussi, parce que je sais que Lyon mène aussi des actions vis-à-vis des habitants et des habitantes. Alors je crois que vous avez soutenu dans le passé, je ne sais pas si c'est encore le cas, notamment les journées du logiciel libre, qui est un événement très important pour les communautés du logiciel libre, qui est un événement annuel organisé à Lyon. Voilà, comment vous intégrez l'importance et cette question du logiciel libre vis-à-vis, enfin de la démocratisation plutôt du logiciel libre vis-à-vis de votre population?
Ben, pour être honnête, c'est un aspect qu'on a quand même pas beaucoup développé. Hein. Sous ce mandat, on s'est vraiment concentré sur les outils des agents. Je dirais un peu dans une logique de balayer devant notre porte, si je puis dire. C'est-à-dire qu'avant d'aller prêcher la bonne parole à l'extérieur, il me semblait que c'était bien qu'on soit assez exemplaire. Donc effectivement, on soutient les journées du logiciel libre par le biais d'une subvention, hein, tout simplement, qu'on a mis en place sous ce mandat. Mais honnêtement, à ce stade, vis-à-vis de l'extérieur, ça se limite un peu à ça. On attaque aussi le sujet des écoles. Effectivement, comme l'a fait Grenoble par le passé, mais là on lance tout juste l'expérimentation de la solution PrimeTux, donc qui est une distribution Linux en fait, hein, mais adaptée à l'école primaire notamment. Peut-être aussi le collège, mais en ce qui nous concerne, en tant que ville, ça concerne les écoles, avec toute une suite de logiciels libres éducatifs associés, qui est un projet, je crois, associatif, hein, à la base, développé par des enseignants passionnés d'éducation et de logiciels libres.
Il me semble bien, oui.
Voilà. Mais à ce stade, très honnêtement, en direction de la population, on n'en est pas du tout au stade où est Grenoble, par exemple, et son kit dont parlait Pierre. Je pense que c'est un sujet auquel il faudra effectivement s'attaquer par la suite. Je pense qu'en plus, le sujet, Pierre le disait un peu aussi, mais il est quand même assez porteur avec les augmentations de prix, avec l'obsolescence de Windows 10 qui oblige certains à passer à Windows 11, avec les dépenses associées, etc. Donc, voilà, l'actualité est porteuse, le sujet est peut-être mieux compris et appelé à être mieux compris. Moi, j'observe aussi quand même que, d'un point de vue politique, il y a quand même un certain caractère transpartisan. Je vois à l'Assemblée, hein, il y a des députés, je pense à Éric Botorel, Philippe Latombe, qui sont des députés qui doivent être Modem, Renaissance, qui portent aussi le sujet du logiciel libre, notamment dans les administrations et de la souveraineté numérique. Donc voilà, il y a un certain alignement des étoiles, un certain intérêt assez large sur le spectre politique qui doit permettre, je l'espère, hein, au logiciel libre de se développer dans les années à venir, et y compris sur le système d'exploitation. Nous, c'est la marche qu'on n'a pas encore franchie à part au stade de l'expérimentation, mais aujourd'hui, quand on parle passer sous Linux. Je pense qu'il y a quelques années, ça faisait peur à tout le monde. On imaginait des lignes de code, on imaginait des choses très geek, si je puis dire. J'ai tendance à penser que tout ça peut se démocratiser avec un peu de volonté politique.
Je vous rejoins entièrement et je pense qu'il y a une grosse évolution depuis quelques années côté logiciel libre pour être plus accessible au grand public, justement. Et il y a notamment des systèmes d'exploitation qui sont pensés pour être facilement accessibles sans avoir besoin de compétences particulières. Je vais me permettre de faire une très courte autopromotion pour une des actions de l'April, mais qui fait écho à ce que vous avez dit sur la notion d'accompagnement. Avec justement la fin de Windows 10 et l'obligation de passer à Windows 11, qui peut mettre au rebut des ordinateurs par ailleurs complètement fonctionnels, il y a beaucoup d'initiatives locales, je suis sûr qu'il y en a à Lyon, d'associations qui font ce qu'on appelle des install parties, c'est-à-dire de l'aide à l'installation et puis à la prise en main après l'installation d'outils libres, et notamment de systèmes d'exploitation libres. Et l'April a lancé un projet qui s'appelle Adieu Windows, une opération Adieu Windows qui permet de recenser, de trouver ces événements pour se faire accompagner. On le répète, il faut se faire accompagner par un être humain, quelqu'un qui va pouvoir vous montrer, vous accompagner dans cette transition qui n'est pas si compliquée, mais qui n'est pas non plus complètement anodine. Et c'est la meilleure manière de réussir un petit peu cette transition. Est-ce que Bertrand, vous avez quelque chose que vous souhaiteriez rajouter, un mot de la fin pour synthétiser l'ensemble des éléments que vous avez partagés, ou peut-être que vous avez fait le tour et que vous avez fini comme vous le souhaitiez? Je vous laisse me dire.
J'ai pas de mots de la fin qui me viennent là, donc.
D'accord, mais je pense que votre propos précédent était assez conclusif déjà. Je pense que vous avez vraiment rappelé des enjeux essentiel. Et je trouve intéressant aussi que vous avez la lucidité. Enfin voilà, en fait, vous avez aussi redit ce que vous parliez de trajectoire. Et je trouve intéressant, voilà, de se dire, on fonctionne bien en interne avant aussi d'intégrer. Et c'est toujours bien aussi de se dire, voilà, chaque collectivité avance à son rythme. Elle n'a pas forcément les mêmes points de départ. Lyon et Grenoble n'en sont pas forcément au même point, mais vous avez la même trajectoire, la même volonté d'avancer. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Ça peut bien sûr pas se faire du jour au lendemain. En tout cas, Bertrand Mazes, voilà, je rappelle que vous êtes élu au conseil municipal de Lyon. Vous avez dans votre mandat également le sujet de la stratégie numérique. Et je vous souhaite le meilleur de la réussite dans la poursuite de ces stratégies. Alors, sans être partisan, mais que ce soit vous ou une autre, parce qu'on sait qu'en 2026, il va y avoir une élection, mais je souhaite bien sûr de tout cœur que Lyon poursuive cette stratégie que vous avez posée et mis en œuvre. Et je vous souhaite une très bonne suite de journée. Merci beaucoup, Bertrand.
Merci à vous. Bonne suite de journée également.
Au revoir.
Au revoir.